Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Point d'Orgue, votre rendez-vous de musique liturgique sur Radio Présence. Alors la semaine dernière, nous avions écouté le Gloria, celle d'encore avant le Kyrie, donc il n'y a pas plus de suspense que ça. Finalement, aujourd'hui, nous allons écouter, analyser et découvrir, je l'espère pour vous, le Sanctus. Alors, comme d'habitude, donc je vais vous proposer, je vais vous le recontextualiser dans un premier temps, puis vous redonner les paroles, afin que ensuite nous puissions écouter ensemble l'adéquation entre la musique et les paroles, de sorte à voir comment véritablement les compositeurs ont pu vraiment rendre justice à ce très très beau texte. Alors le Sanctus, qu'est-ce que c'est? C'est l'une des principales acclamations de l'Église. Mais elle est très particulière, cette acclamation-là, parce que elle est, c'est une sorte de patchwork, finalement. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que il se divise en deux. En fait, les inspirations du texte se reprennent dans plusieurs endroits de la Bible. Alors, le premier passage du Sanctus, qui fait référence au Seigneur Sabaoth, est tout à fait particulier. Ça se retrouve tout simplement dans l'Apocalypse, qui est une référence au livre d'Isaïe. C'est quand le prophète entend les séraphins qui chantent devant ce Seigneur Sabaoth. Alors qu'est-ce que le Seigneur Sabaoth? Si on devait faire une traduction très littérale, ce serait le Seigneur qui dirige les armées célestes. Alors aujourd'hui, les traductions sont un petit peu différentes. On va plutôt parler de Dieu tout-puissant ou alors de Dieu de l'univers. On laisse le côté martial plutôt à Saint-Michel qui fait très bien le travail. Donc on est vraiment face à un Seigneur tout-puissant, omnipotent, c'est cela le Seigneur Sabaoth. Il est également intéressant de noter le fait que ce soit les séraphins qui chantent cette gloire de Dieu, parce que ce sont eux-mêmes, ce sont ces anges très particuliers, avec leurs multiples ailes enflammées, qui portent la gloire de Dieu. Donc véritablement, quand on chante le Sanctus, c'est un chant à la gloire totale de Dieu. Et ensuite, il y a une deuxième partie dans ce Sanctus qui est tout aussi importante, qui provient cette fois-ci du Nouveau Testament. Il s'agit du Hosanna. Alors ce passage, vous le connaissez très certainement, il s'agit des rameaux. C'est le moment où le Christ rentre à Jérusalem et il est acclamé par la foule qui accueille son roi. Sauf que, comme vous le savez, celle-ci marque bien entendu le début de la semaine sainte, et quelques jours plus tard, Jésus sera crucifié et ensuite ressuscitera. Donc c'est vraiment un moment totalement particulier puisque ça fait référence aussi à la vie et à la mort du Christ. Alors, sans plus attendre, je vais vous donner la traduction de ce texte puisque, comme souvent sur Point d'Orgue, vous allez l'entendre beaucoup en latin. Donc voici la traduction du texte en français. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Voilà pour le texte. Alors là aussi, on peut noter, pour la compréhension du texte, que quand on dit saint, saint, saint trois fois, qu'on le répète à ce point-là, effectivement, on s'adresse à Dieu dans son ensemble. Au Dieu trois fois saint, finalement, c'est le Dieu Père, Fils et Esprit Saint, donc la Sainte Trinité. Donc quand on s'adresse à Dieu et à sa gloire, effectivement, il y a tout ce sens-là également qui vient derrière. C'est donc un chant extrêmement brillant. Lorsqu'on entonne le Sanctus, ça se fait à plein poumon. D'ailleurs, il est demandé à ce que toute la foule, toute l'assemblée, ainsi que le célébrant, le chante, et que s'ils ne sont pas en mesure de le chanter, eh bien, ils le récitent. Je vous propose donc d'entendre une première version de ce Sanctus. Il s'agit de celui de Yves Castagné. Yves Castagné, c'est l'organiste de chœur de Notre-Dame de Paris. Donc là, il joue à l'orgue de chœur de Notre-Dame. Il est accompagné par la maîtrise Notre-Dame ainsi que par l'organiste Olivier Latry, qui est également organiste à Notre-Dame de Paris. Vous allez voir que là, il s'agit d'un Sanctus tout à fait typique finalement, c'est-à-dire quelque chose de totalement brillant, mais qui est également contrasté, ce qui va permettre de mettre en exergue tout ce qui se rapporte à la gloire de Dieu. Je vous laisse donc le découvrir. Là, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas entendu la gloire de Dieu. Alors, bon, c'est très Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire que ça s'adresse véritablement à des messes totalement exceptionnelles ou solennelles, mais bon, après tout, si on s'adresse à la gloire de Dieu, je pense que c'est presque un minimum finalement. Donc ce que je trouve très intéressant dans ce Sanctus, outre les harmonies, c'est-à-dire les couleurs musicales que je trouve très très belle, c'est effectivement la complexité finalement musicale qui montre également la complexité de la gloire de Dieu. Le passage, à mon avis, le plus marquant, bon, donc vous avez vu, ça commence très très fort, et vous avez une espèce de partie centrale qui est incroyable, avec le grand orgue qui tout d'un coup s'efface, il devient beaucoup moins présent, et il fait des allers-retours avec des arpèges, et je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre le côté totalement évanescent, le côté céleste. On voit presque les anges, leurs ailes qui battent dans le ciel sans s'arrêter autour de la gloire de Dieu et ses séraphins avec ses ailes enflammées. Je trouve que véritablement, il y a ce sens-là dans ce Sanctus. Et bien entendu, à la fin, il y a une reprise musicale totalement grandiose avec ce crescendo qui revient pour le dernier Hosanna et véritablement. Il n'y peut y avoir qu'une seule destination avec un crescendo pareil, c'est le ciel. Donc je trouve que c'est un Sanctus tout à fait réussi quant à sa forme. Et d'un point de vue musical, c'est vrai que, comme je vous le disais, il peut être dur à chanter, en tout cas pour les fidèles, bien que le chant en soi ne soit pas si difficile que ça, il s'agit plutôt de l'harmonie. Mais en ce cas-là, il faut le reprendre, il faut le dire en même temps que la musique est dite. Voilà, parce que c'est appartient véritablement à l'Assemblée de pouvoir dire qu'elle croit en Dieu et qu'elle veut lui rendre gloire. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Quand il n'est pas possible de chanter, il est tout à fait possible de dire, de le parler, et c'est tout aussi fort, croyez-moi. Alors, donc là, vous avez eu droit à un Sanctus en entier dans le texte. Mais en vérité, la tradition musicale, et notamment française, a été très différente au cours des siècles, puisque pendant longtemps, on a sectionné, partitionné le Sanctus, notamment entre le Sanctus à proprement parler et la partie Benedictus. Et notamment, il y a eu beaucoup de différenciations musicales qui se sont faites entendre. Il en existe beaucoup d'exemples dans la musique. Mais il y a quelque chose qu'aujourd'hui on ne pratique absolument plus. Donc je voulais simplement attirer votre attention dessus. C'est un petit peu une parenthèse, c'est un petit peu hors sujet, mais ça fait partie de l'histoire musicale de la liturgie, notamment française. Donc je me permets de faire ce petit écart. Mais pendant le Sanctus, alors soit avant, soit après le Benedictus, ça a changé. Mais le prêtre élevait l'hostie, il y avait un moment qu'on appelait l'élevation. Et pendant cette élevation, il y avait de la musique, notamment à l'orgue. Il y a eu un très grand maître qui s'est illustré dans ces moments d'élevation. Il s'agit de Girolamo Frescobaldi, qui est un immense compositeur italien de la première moitié du XVIIe siècle, qui écrivait notamment des toccata. Toccata, en italien, ça veut dire toucher. Ce sont des pièces qui sont d'un style assez libre. Alors là, on est loin des toccata que vous pouvez connaître chez Bach, chez Vierne ou chez Widor. Il s'agit donc de choses qui sont beaucoup plus méditatives et qui permettaient véritablement de rendre gloire dans sa totalité, c'est-à-dire dans le plus profond du mystère jusqu'à l'incarnation. Donc je vous propose de faire un petit écart et d'écouter l'une de ces toccata de Frescobaldi qui était initialement écrite pour l'élévation.
Thank you.
vous avez entendu la toccata per l'elevazione de Girolamo Frescobaldi, issue de la Messa degli Apostoli, la Messe des Apôtres, interprétée par Domenico Traeri à l'orgue. Vous savez que dans cette émission, j'aime bien faire des contrastes, de sorte à ce que vous, auditeurs, vous puissiez constater que la musique liturgique, finalement, ça a été beaucoup de changements, beaucoup de modifications. Et encore, là, on n'a même pas parlé de grégorien ici. Mais finalement, les choses ont été très diverses. Et que de chemin parcouru, effectivement, depuis ce XVIIe siècle, avec cette élévation, jusqu'au Sanctus que vous avez pu entendre en premier lieu. Moi, je trouve que cette élévation est assez magique. En fait, c'est une sorte de parenthèse totale dans la messe, effectivement, où on est seul face au mystère, face à cette incarnation, face à ce mystère de la transsubstantation. Et effectivement, on se dit qu'on est seul face à Dieu et à sa complexité, et les musiciens tentent de rendre hommage à cela par leur génie. C'est ici le cas avec Frescobaldi. Il y a également quelque chose qu'il faut noter et dont on doit se souvenir finalement quand on écoute ce genre de choses, une élévation, c'est qu'effectivement, à une certaine époque, il s'agit de l'unique moyen pour beaucoup de gens d'assister à une pièce de musique classique finalement. Et cela permettait de se forger véritablement une culture et la messe devenait quelque chose qui participait au mystère, pas grâce à la musique. Et ça, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Et donc voilà, je me dis finalement, imaginons un Sanctus tout à fait flamboyant, et de se dire qu'il y avait une parenthèse comme ça hors du temps, uchronique et presque utopique aussi, en se disant, voilà, là, il n'y a plus rien, il n'y a que ce moment d'élévation. Je trouve que c'est un symbole qui est très fort. Et donc, finalement, ce moment dans la messe est une petite suspension. Et maintenant, chers auditeurs, maintenant que nous savons que nous pouvons couper en deux, sans vergogne, le Sanctus, avec d'une première partie le Sanctus et dans une deuxième partie le Benedictus, je vous propose d'entendre une de ses plus fabuleuses et fameuses césures. Je suis certain que vous l'avez déjà entendue au moins une fois dans votre vie. Il s'agit du Sanctus du Requiem de Fauré. Alors, outre le fait que je trouve que ce Sanctus est magnifique, je vous le présente aussi parce qu'il présente quelque chose de, encore une fois, radicalement différent avec ce que nous avons pu entendre. Alors je vais d'abord vous laisser le soin de l'écouter et ensuite nous allons brièvement en parler. Il s'agit d'une très belle version de la Chapelle Royale et de l'ensemble musique oblique.
Thank you.
On ne se lasse finalement jamais d'être dans la compagnie de forêt. Donc c'était le Sanctus de son magnifique Requiem. Bon, alors évidemment, il s'agit d'une œuvre incroyable à plus d'un titre par sa musicalité dans un premier temps. Effectivement, c'est quelque chose de très musical, très mélodique. Vous avez ce dialogue incroyable entre l'orchestre finalement, les chanteurs, et bien entendu ce violon solo qui vient nous caresser avec beaucoup de tendresse. Pour moi, c'est vraiment un Sanctus très tendre, et donc beaucoup moins dans le ton de ce que nous avons pu entendre finalement jusqu'à présent. Et rien que pour l'anecdote, je vous livre ceci. Fauré avait dit de son œuvre qu'elle était calme comme lui. Donc, on voit que finalement, il s'agit d'une œuvre très, très personnelle, et c'est pour ça que je voulais également vous le dire, parce que ce requiem a finalement beaucoup de sens. Également, sachez que c'est tout à fait spécifique, mais que ce Sanctus est la seule pièce du requiem à ne pas être adressée à un défunt, et qu'également, comme toutes les autres pièces de ce requiem, elle commence piano, ça veut dire doucement, et elle se termine piano. Donc finalement, il y a une espèce d'ambiance totalement sereine qui se dégage de ce Sanctus. Voilà donc pour ce voyage avec le Sanctus. J'espère qu'il vous a plu. La semaine prochaine, nous nous arrêterons un petit peu sur la news. Je vous souhaite une très belle journée.